Avant cela, comme chaque lundi, nos deux entretiens, nous commençons par celui proposé par Jacques Mourican, qui se charge lui-même, en compagnie de son invité, des présentations.
Philippe Landru, vous avez une drôle d'occupation puisque vous parcourez les cimetières d'Europe, mais il faut d'abord que l'on fasse un petit peu plus connaissance avec vous. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu d'abord qui vous êtes ?
Alors, je suis donc enseignant d'histoire, géographie en secondaire. J'ai 40 ans maintenant, enfin j'arrive sur mes 40 ans bientôt. Et voilà, c'est donc j'ai effectivement une passion un peu coupable pour les cimetières.
Qui est né quand cette passion ?
Bah maintenant ça fait 25 ans. Ça fait drôle de le lire d'ailleurs parce que j'ai l'impression que c'était hier, mais ça fait 25 ans. Donc j'ai commencé tôt, c'était précoce. En fait, ça a commencé. Il y avait déjà un intérêt pour l'histoire, il y avait un intérêt pour le patrimoine et le passé. C'était relativement diffus parce qu'à 15 ans, c'est toujours diffus. Mais puis ça commençait avec une visite au Père Lachaise. Et c'est là que vraiment le virus m'a pris. Mais ensuite, ça a été très, très progressif parce que je me suis pas mis à visiter les cimetières à 15 ans. Disons que j'en visitais régulièrement. Puis après, ça s'est densifié.
Alors, visiter les cimetières, ça veut dire quoi exactement ? Ça veut dire pousser vos investigations jusqu'où ?
C'est difficile de répondre à cette question parce que vu qu'avec le temps la passion évoluait, alors on va dire dans l'état actuel des choses, ça veut dire y faire beaucoup de choses finalement maintenant. Ça veut dire y faire souvent un travail en amont, rechercher ce qu'il est possible de trouver sur le net ou sur des ouvrages, soit des ouvrages spécialisés, soit des ouvrages plus généraux. En sachant que quand on va se rendre dans un cimetière bien particulier, on va a priori y trouver des choses et puis ensuite faire la visite du cimetière et y trouver tout ce que l'on n'a pas lu et tout ce qu'on ne savait pas y trouver. S'intéresser au patrimoine dans vraiment tous les sens du terme, parce que patrimoine funéraire, quand on dit patrimoine funéraire, en fait on pense à deux choses, on pense soit à des tombeaux particulièrement beaux, particulièrement esthétiques, soit à des tombeaux de célébrités. Et moi ce qui m'intéresse c'est patrimoine funéraire dans toutes les acceptations du sens, donc à la fois l'aspect esthétique, mais également l'aspect historique, je suis quand même enseignant d'histoire, l'aspect personnalité ne m'est pas insensible, et je rajouterais l'aspect anecdotique. Donc en fait, ça fait beaucoup de choses. L'aspect historique étant la trame de fond, je dirais. Et puis ensuite, tout ce qu'on peut y trouver. Et ce qui est intéressant, évidemment, c'est qu'en fonction des endroits où on va aller, on va avoir droit à des spécificités plus ou moins locales, plus ou moins régionales. Voilà.
Et comment est-ce qu'un cimetière raconte l'histoire ? À quoi la voyez-vous ?
Alors, on voit effectivement l'histoire d'un lieu, quel que soit le lieu. On la voit dans son cimetière, elle est écrite de manière... évidente, et en même temps, pour quelqu'un qui n'a pas forcément l'habitude, rien n'est évident. On la voit aussi par l'expérience, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on sait un petit peu où chercher et quoi chercher. On va la voir parce qu'on va avoir différents types de catégories sociales qui vont être représentées selon l'endroit où on se trouve, différentes catégories professionnelles, selon qu'on soit dans une région où il y a une spécificité. On va évidemment avoir des clivages religieux, qui sont plus ou moins nets selon les régions. Donc clivage professionnel, clivage religieux, clivage sociaux. On peut avoir aussi des éléments anecdotiques qui ont pu marquer une région. Je sais pas moi, un accident par exemple a eu lieu, un accident qui a énormément marqué une région. Dans le cimetière, on va avoir la présence de plusieurs victimes, voire d'un monument commémoratif. Et donc là, ça raconte quelque chose du village ou de la ville, quoi.
J'aimerais par exemple que vous me racontiez le cimetière le plus cher à votre cœur, que vous ayez récemment visité ou bien que vous ayez bien à l'esprit, pour que vous me fassiez toucher du doigt ce que vous avez pu y voir.
C'est difficile parce qu'il y a beaucoup de cimetières que j'ai aimés et pour des raisons différentes. Un cimetière particulièrement beau par exemple, je pourrais prendre l'exemple d'un cimetière qui est vraiment très joli, c'est le grand cimetière qui se trouve à Amiens, dans lequel est enterré Jules Verne, mais ça, à la limite, c'est presque anecdotique. C'est un endroit, c'est un cimetière vraiment dans le sens romantique du terme, dans lequel vous avez beaucoup de tombeaux qui sont en très mauvais état et dans une végétation très, très étonnante, quoi. Donc ça pourrait être un exemple de cimetière particulièrement esthétique, dans lequel il y a aussi des tombeaux intéressants, mais pour lequel on peut se balader, même quand on n'est pas forcément fan de cimetière. On va prendre d'autres endroits. Un cimetière dans lequel je suis retourné récemment, dans lequel j'étais déjà allé, par exemple le cimetière Saint-Pierre de Marseille, qui est un cimetière assez méconnu à Marseille, qui est l'un des plus grands cimetières de France et qui est extrêmement intéressant. Parce que justement, on est à mi-chemin entre la culture italienne, qui n'est quand même pas bien loin, et puis la culture plus des cultures plus septentrionales. Donc on a la confluence des deux dans la conception des tombeaux, avec beaucoup de vedettes aussi qui sont enterrées là, mais aussi des cadres absolument somptueux. Mais je peux aussi trouver mon intérêt, et c'est là c'est là qu'on voit que la passion est allée loin, parce que là ça serait difficile d'intéresser quelqu'un qui n'est pas spécialement fan. Je peux trouver mon intérêt dans un cimetière de banlieue qui a priori n'a strictement aucun intérêt d'un point de vue je dirais esthétique, dans lequel on va chercher, à la manière d'une sorte de jeu de rôle, des vedettes d'hier ou d'avant-hier, même complètement oubliées, quoi, qui sont des troisièmes ou des quatrièmes couteaux. Et quand je dis troisième, quatrième couteau, c'est pas un terme que je, dans ma bouche, c'est pas péjoratif, en fait. C'est vrai que c'est des personnalités que plus grand monde ne connaît. Mais justement, pour les gens qui sont comme moi, parce que je suis pas tout seul, heureusement, c'est vraiment intéressant d'aller les débusquer et de les remettre un petit peu en lumière, parce qu'il y a plus grand chose qui les met en lumière. Alors que parfois, à leur époque, ils ont été des très, très grandes vedettes.
Est-ce qu'il peut arriver que la visite d'un cimetière soit en quelque sorte le départ d'une recherche ?
J'aurais tendance à dire que c'est systématique. Mais quand je dis systématique, c'est vraiment systématique. C'est-à-dire que même un petit cimetière rural dans lequel finalement on ne va pas trouver grand-chose parce que ne serait-ce qu'il y a 40 tombes, quoi, après coup, ça va toujours être l'objet d'une recherche. Alors après, évidemment, cette recherche va être plus ou moins poussée. Mais ce qui est intéressant, et c'est en ça que le cimetière est un vecteur de culture, c'est que quand je vais dans des cimetières, il y a par exemple toutes les personnalités que je connais, mais il y a toutes celles que je ne connais pas. Et c'est l'occasion de les découvrir finalement. Tout à l'heure, j'ai parlé de mon travail en amont, mais il y a aussi le travail en aval. C'est qu'une fois qu'on a trouvé des tas de choses, eh ben, on fait des recherches. Donc tout cimetière est l'objet d'une recherche. Tout cimetière est l'objet d'une recherche. Et c'est comme ça que j'en arrive parfois à capter des choses historiques sur une région, voire sur un village, voire parfois des choses extrêmement confidentielles. Ce qui me fait sourire d'ailleurs, puisque régulièrement, donc je peux faire un article après sur ce cimetière, il y a des gens qui m'écrivent pour me dire « Ah vraiment, on voit bien que vous connaissez bien notre région, vous connaissez bien notre ville, alors que je ne savais rien de cette ville ou de ce village avant d'avoir visité le lieu. » Mais parce que la grille de lecture, elle était là, elle était tout simplement au cimetière.
Est-ce que vous pouvez me donner des exemples, en effet, de déductions, puisque, si je comprends bien, c'est de ça dont il s'agit, qui sont nées de l'examen de tel ou tel cimetière, quant à une anecdote locale, par exemple?
Bah, je peux vous en citer deux exemples différents. Le premier, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, c'est les accidents. Si vous êtes par exemple dans une ville côtière, une ville bretonne, vous allez avoir un accident d'un chalutier ou d'un naufrage, quoi, qui a très marqué le village parce qu'il y a eu, je sais pas moi, une dizaine de victimes qui sont enterrées dans différentes tombes du cimetière. Donc moi je vais me promener dans le cimetière, je connais rien du tout sur ce naufrage, et je vais voir régulièrement mort dans le naufrage du navire où il y a le nom qui est indiqué, etc. Donc moi ensuite je vais évidemment faire des recherches, et parfois on trouve beaucoup d'informations, parce que il y a d'autres gens qui eux s'intéressent pas du tout au cimetière, mais par contre qui eux vont recenser tous les naufrages qui a pu y avoir lieu, ou des accidents de ce type. Bon, alors là je parle d'un naufrage pour une ville côtière, mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être l'incendie, je pense par exemple à l'incendie du 5-7, qui était de cette boîte de nuit qui avait énormément marqué à l'époque, dans lequel il y avait eu pas mal de victimes. Je pense dans un tout autre registre au lycée Payron à Paris, qui avait pris feu et dans lequel il y a eu des enfants qui avaient été victimes. Si je prends cet exemple-là, au cimetière de la Villette à Paris, vous avez plusieurs des victimes de l'incendie du lycée Payron. Et donc là, vous avez une porte d'entrée dans une ville ou dans un village, parce que vous faites face, vous, à quelque chose que vous ne connaissiez pas avant, et qui en fait est un incident ou un accident qui a énormément marqué le village. Et par cet événement, vous allez réussir à avoir un aspect que parfois, seules les personnes les plus âgées du village, ceux-là s'en souviennent, quoi. Mais je peux prendre un autre exemple qui n'a rien à voir avec des naufrages ou des accidents. C'est tout simplement, vous allez visiter un village, par exemple, ou une ville, et vous allez voir des noms de famille qui se reproduisent, qui sont très fréquents. Donc déjà, vous en déduisez que là, on a affaire à une des vieilles familles de la région. Et puis, vous voyez les tombeaux, et vous voyez les mariages, et vous voyez, en fait, très rapidement, bon, c'est vrai que je fais aussi de la généalogie, alors ça aide, mais vous voyez les filiations s'établir, et vous commencez à voir des liens de famille, parfois assez subtils. Et puis, parmi ces membres de la famille, eh ben, vous allez trouver quelques-uns. Alors, l'un est devenu, je ne sais quoi, moi, procureur à la cour de, ou juge au tribunal de cassation. Un deuxième est devenu artiste lyrique ou je ne sais quoi. Et en fait, vous allez reconstituer des lignages, en fait. Il n'y a pas d'autre mot, qui sont souvent, évidemment, des familles notables. Et vous allez reconstituer des lignages de familles notables. Et moi, encore une fois, quand je vais faire mon article, je vais témoigner de ça. Je vais dire, voilà, il y a telle ou telle famille qui sont reliées. Et évidemment, les gens qui ne savent pas comment j'ai pu travailler se disent, il connaît forcément bien notre village pour savoir tout ça, alors qu'en réalité, c'est encore une fois, c'est inscrit sur les tombes.
« Thank you.